Lisons ensemble chapitre 12 de la Genèse. Genèse 12. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan. Et Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait été apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et tendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Et il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et elle arriva, comme elle était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. » Elle arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien et en considération de toi et que mon âme vive à cause de toi. Et elle arriva que lorsque Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme qu'elle était très belle. Et les princes du Pharaon le virent et la louèrent devant le Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon. Elle traita bien Abraham à cause d'elle. Et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs, et des servantes, et des ânesses, et des chameaux. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu dit, pas déclaré quelle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme, et maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et les renvoyèrent, lui et sa femme et tout ce qui était à lui. » Jusqu'ici, la parole de Dieu au début. Il est intéressant comment Dieu a écrit son livre. Peut-être la chose, l'intervention le plus grand qui existait sur la terre, la création. La création du ciel et de la terre, en principe inversé, Genèse 1, verset 1. Si on inclut ce que j'appelle la réparation de cette terre, on peut dire ensemble c'est un chapitre. Si on regarde des interventions de Dieu si remarquables que jusqu'à aujourd'hui, on peut voir les résultats de cela. Ça veut dire, dans le temps de Noé, la flood, le déluge, merci. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les grandes montagnes n'étaient pas faites par Dieu. Ce sont des résultats du déluge. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on peut voir encore des résultats. Alors, si on regarde cela avec l'histoire de Noé, 4 chapitres, 6 à 9, et la vie d'Abraham, plus ou moins personne aujourd'hui reconnaît Abraham encore. Certainement, plusieurs savent que lui était le grand-père de Jacob, mais c'est rarement qu'ils ont conscience de cette histoire, de cette personne. Et Dieu écrit chapitre 12 à 25, 14 chapitres. Et même, ça commence verset 27 du chapitre 11. Dieu écrit sa parole différemment que nous pensons des choses. Ce n'est pas les choses visibles, les grandes choses devant les yeux de l'homme qui intéressent Dieu le plus. Pour nous, souvent, ce sont ces choses, n'est-ce pas? Si une personne est, pour ainsi dire, grande, si quelqu'un a des grands dons, une personne pensant positivement et charismatique, je ne parle pas de cette église ou ces églises, mais dans sa personnalité, on apprécie beaucoup. Mais Dieu regarde les choses d'un autre point de vue. Si quelqu'un vit pour Dieu, si quelqu'un vit en communion avec Dieu, ça c'est grand pour Dieu. Et ça c'est Abraham. Abraham, qui est le père des croyants, le père de la foi, en fait, pour ainsi dire, la personnification de la foi, Dieu est intéressé beaucoup à cet homme. Et il nous écrit, comme j'ai dit, 14 chapitres sur sa vie. J'espère que nous apprenons par cela, que nous ne cherchons pas vraiment des choses très visibles pour l'homme, mais visibles pour Dieu. Les choses dans nos cœurs qui sont devant Dieu, la vie qui est dévouée au Seigneur, à Dieu. Il est remarquable que l'histoire d'Abraham est donnée dans trois parties. La première partie, chapitre 12 à 14, inclut certainement chapitre 11, verset 27 à 32, nous montre la vie plutôt extérieure d'Abraham. Ça veut dire le chemin qu'il a pris d'après les enseignements de Dieu, certainement, la plupart au moins, où on peut voir comment il a vécu avec Dieu d'un point de vue d'extérieur. Quels étaient ses chemins? Ça veut dire, on voit beaucoup comment il a voyagé de Ur en Chaldée, à partir du verset 27, jusqu'à Charan, de Charan jusqu'à Canaan. Certainement aussi, dans notre chapitre, le chemin en retour, pas en retour, mais au dehors de ce pays, encore une fois, en Égypte, et retour. Le chemin extérieur. Dieu regarde ta vie, ma vie, notre vie ensemble, aussi la vie qu'on peut voir extérieurement. Nos frères et sœurs peuvent voir ce que je fais, comment je vis. Mes voisins, mon collègue, pas les miens, mais vos collègues, ils peuvent voir le chemin que vous avez choisi. Et Dieu fait des remarques sur cela. À partir du chapitre 15 jusqu'à chapitre 21, on retrouve plutôt une autre perspective, ça veut dire la vie d'Abraham intérieurement. Ça commence, chapitre 15, par exemple, d'après que Abraham a refusé de prendre quelque chose du roi de Sodom. Il est dit, après ces choses, comme dans chapitre 22, ça nous montre en effet une nouvelle partie de sa vie, que l'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision disant, Abraham ne craint point, etc. Ça montre les sentiments d'Abraham intérieurement. Il est intéressant, aujourd'hui, on peut dire que c'est la vie d'Abraham subjectif. La première partie donne la vie d'Abraham objectif. Ça veut dire comme objet devant nos yeux. La deuxième partie, c'est plutôt subjectif, ça veut dire la vie intérieure. Comment Abraham se sentit dans sa vie. Il est intéressant qu'aujourd'hui, je crois, on souligne beaucoup et presque seulement cette partie subjective. Et Dieu nous donne les deux côtés. C'est une balance nécessaire, la vie extérieure, la vie intérieure. Mais quand même, on voit que la plupart de sa vie est décrite par ce côté-là, chapitre 15 à chapitre 21. Ça nous montre que Dieu s'intéresse aussi pour nos sentiments, pour la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce que nos pensées intérieures dans nos vies, aussi notre motivation, etc. Toutes ces questions qui nous occupent intérieurement. Et Dieu montre comment il a conduit Abraham dans ces étapes de sa vie aussi intérieurement. Ce n'est pas le côté le plus facile pour nous d'entrer dans la vie de notre frère, de notre sœur, dans cette perspective-là, d'avoir intérêt pas seulement à l'extérieur qui est important, pas seulement aux étapes, aux pas extérieurs qui sont importants, parce que Dieu nous montre dans le chapitre 12 à 14, mais d'être un intérêt aussi pour le cœur de nos frères, de nos sœurs. Ce n'est pas possible de parler sur ces questions, pour ainsi dire, juste après une réunion, où on est dans le plus ou moins dans le public. Il faut prendre du temps, il faut prendre de temps pour visiter, pour inviter. Certainement, cela a toujours les deux côtés. Il faut avoir l'intérêt, mais il faut laisser aussi avoir l'intérêt pour moi. Certainement, il est clair, je ne crois pas qu'on peut ouvrir son cœur à chacun. Ce n'est pas, pour ainsi dire, comme dans un marché, qu'on parle de ses sentiments, de ses problèmes, de ses défis, etc., à chacun. Et quand même, on a besoin des frères, des sœurs, des couples peut-être, des familles, qui sont intéressés aussi à mes pensées, à mon intérieur. Et est-ce que je suis prêt, pour une, deux personnes peut-être, de m'ouvrir aussi, de laisser faire partie de ma vie à quelqu'un. Je crois qu'il est nécessaire pour avoir vraiment une aide. Parce qu'il n'y a personne qui vit toujours sur la hauteur de la foi. Ça n'existe pas. Ce n'était pas Abraham, ce n'était pas David, ce n'était pas personne, sauf le Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin les uns les autres. Comme j'ai dit, ce n'est certainement pas utile, recommandable de s'ouvrir à chacun. parce que certainement si quelqu'un sait plus de moi que mon comportement extérieur, ça le donne aussi l'occasion de parler sur ce que je dis. Et c'est dangereux aussi, de notre côté. Alors, on ne peut pas s'ouvrir à chacun. Mais est-ce qu'il y a ceux qui ont intérêt à l'un et d'autres à l'autre? Et est-ce que je suis ouvert pour cela? Au moins, avec le Seigneur, avec Dieu le Père, il est toujours intéressé. Et comme nous voyons avec Abraham, il le montre aussi. Et il est avec nous toujours. Alors, une troisième partie, à partir du chapitre 22, qui commence encore une fois, il arriva après ces choses qui nous montre une toute autre côté. Pour moi, en fait, c'est le plus précieux côté de la vie. Parce que dans le chapitre 22 à 25, Dieu nous montre, par quatre chapitres seulement, ses plans, ses conseils. Je ne peux pas dire éternel, parce qu'il y a une partie qui a à faire aussi avec Israël, qui ne fait pas partie des conseils du Dieu éternel. Mais quand même, c'est les conseils de Dieu envers Christ. Chapitre 22, la mort de Christ. Chapitre 23, de mettre à côté Israël. Chapitre 24, que le Seigneur a reçu de son père l'épouse Rebecca. Isaac reçoit Rebecca. Et chapitre 25, la bénédiction de millénium par Isaac, par le Seigneur Jésus. Une partie vraiment importante et aussi très utile à s'occuper, parce que ce qui était dans le cœur de Dieu m'intéresse, parce que je suis enfant de Dieu. Ce qui a à faire avec le Seigneur m'intéresse, parce que le Seigneur est mon Sauveur et Seigneur. Je reviens sur chapitre 12. On voit ici comment Dieu avait appelé à Abraham, avait dit à Abraham. On voit que, comme souvent, la foi d'une personne n'est pas directement une foi de 100%. On voit cela ici, on voit cela avec David, avec beaucoup de personnes. Il faut un certain temps, une certaine croissance spirituelle avant que Dieu atteigne vraiment ses buts dans nos vies. C'est la même chose avec Abraham. Étienne, on apprend dans Actes 7 que Dieu s'est révélé déjà à Abraham en Ur. Il est dit, chapitre 7, Actes 7, verset 2, « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il habite en Charan. » Ça veut dire, Dieu est apparu à Abraham au début, quand il était encore dans la Mésopotamie, ça veut dire en Ur. Et nous savons par Josué 24 que cette famille était des idolâtres. Ça veut dire, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a appelé Abraham au dehors d'un environnement mauvais. Ce n'était pas parce qu'Abraham avait eu foi. Ce n'était pas parce qu'Abraham était quelqu'un qui a plu à Dieu. Mais c'est la souveraine grâce de Dieu. C'est la même chose avec Noé. Si on lit dans chapitre 6, dans le verset Genèse 6, Il est dit dans le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Est-ce que Dieu a donné grâce à Noé parce qu'il était un homme juste, parce qu'il était parfait? Et la réponse est non. C'est le contraire. Il est devenu un homme juste, il est devenu un homme parfait grâce à cette grâce de Dieu. Il était comme les autres. Il n'y avait aucune différence entre Noé et son environnement. Mais Dieu, par sa souveraine grâce, a donné grâce à lui, et par cela, il est devenu un homme qui a marché avec Dieu. Parce que grâce n'est plus grâce si c'est la récompense pour quelque chose. Ça fait très clair qu'il était comme les autres. Abraham aussi. Mais Dieu l'a appelé, et après un certain temps où Abraham avait eu encore difficultés, parce que les liens de la famille étaient plus forts que les liens avec Dieu. Et n'est-ce pas, c'est souvent avec nous aussi. Le Seigneur dit une fois très sévèrement, pour ainsi dire, si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, etc., et n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu, et n'est pas d'après le caractère du royaume. Et c'est vraiment une question pour nous. J'espère bien que chacun qui est dans cette salle aujourd'hui est quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur, qui suit principalement déjà le Seigneur, qui peut dire « Le Seigneur Jésus est mon sauveur, mon Seigneur ». Sinon, je parle sur des choses cet après-midi que tu ne peux pas comprendre vraiment. C'est la première étape. Apprendre, c'est accepter Jésus comme sauveur, sinon tu es perdu éternellement. Et tu vas être dans l'enfer. Mais si nous avons accepté Jésus comme sauveur, est-ce que ce n'est pas vrai que souvent les relations de famille ont une importance pour nous plus forte que la parole de Dieu? De suivre avec conséquence, vraiment en dévouement le Seigneur. Est-ce que la parole est plus importante pour moi ou les liens de la famille? Si c'est nécessaire, j'espère que non, mais si c'est nécessaire, est-ce que le Seigneur a vraiment, il doit toujours avoir la première place, mais s'il me montre dans la parole quelque chose qui fait nécessaire un changement de ma vie. Est-ce que je suis lui ou est-ce que je veux plutôt rester dans ma famille, dans les liens de ma famille, avec ma famille? Abraham a dû apprendre. Elle est intéressante, nous lisons dans le verset chapitre 11, verset 32. Les jours de Térakh furent 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Si le cœur de quelqu'un est vraiment avec Dieu, même si il est faible comme Abraham, Dieu aide. Dieu aide même dans notre faiblesse, et il prend l'obstacle ici, qui est ici son père, de vraiment aller à ce lieu où Dieu l'a dit. Et comme chapitre 12 ouvre, et l'Éternel avait dit à Abraham, c'était un temps, peut-être un long temps avant. Mais maintenant, Abraham prend ce pas pour vraiment continuer à aller à Canaan. Quelle est ma situation? Quelle est ta situation? Est-ce que nous sommes prêts à suivre 100% le Seigneur? Quand le Seigneur montre-nous quelque chose dans la parole, vis-à-vis ma vie personnelle, vis-à-vis ma vie extérieure, vis-à-vis la vie de l'Assemblée, est-ce que ces choses que lui nous enseigne en priorité, ou ma famille, ou mes amis, ou mon travail, ou n'importe quoi, est-ce que c'est vraiment le Seigneur que nous suivons, ou est-ce que c'est mes sentiments, mes amis, mon environnement? Dieu est vraiment miséricordieux. Il parle, pour ainsi dire encore une fois, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père. » Ça nous montre que Dieu a déjà exprimé le problème pour Abraham avant qu'il a compris ce problème. De ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a vu que sa maison avait joué un rôle très important pour Abraham. Et certainement, la famille n'est pas sans importance pour nous. Dieu nous a mis dans une famille. Mais si la famille est plus importante que le Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas d'après la parole de Dieu. Il donne des bénédictions, des promesses à Abraham. Et la même chose est juste pour toi et moi aujourd'hui. Si nous suivons le pas de notre Seigneur, si nous imitons, pour ainsi dire, la marche de notre Seigneur, les motifs de notre Seigneur, il va nous bénir, il va te bénir, comme il a fait avec Abraham. Pour lui, certainement, c'était une bénédiction extraordinaire de devenir, premièrement, une grande nation lui-même, et deuxièmement, être en bénédiction pour toutes les nations, pour tous les pays. Nous savons que ça, c'est juste par le Seigneur. Seulement parce que le Seigneur était la semence d'Abraham, comme elle est dit dans chapitre 22, par ce semence singulier qui est le Seigneur, comme Paul dit dans Galates 3, que les bénédictions étaient ou sont, vont être réalisées. Pour nous, la même chose. On va être personnellement et dans la famille béni si on suit le Seigneur. Et la question est pour chacun de nous, est-ce que nous sentons cette bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction extérieure. Probablement pas, ça peut être. Mais est-ce que nous avons cette conscience que le Seigneur nous a bénis? Il nous a bénis particulièrement avec chaque bénédiction céleste. Et être conscient de ces bénédictions veut dire que nous vivons, que nous vivions dans ces bénédictions, que ces bénédictions célestes font vraiment partie dans nos cœurs, dans nos vies. Mais ces bénédictions ne veulent pas avoir une place dans nos vies si ma vie n'est pas en accord avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur peut me montrer ces bénédictions? Comment est-ce que le Seigneur peut me faire riche spirituellement si je vis égoïstiquement, si je vis ma propre vie, si je ne vis pas pour le Seigneur? Certainement, il ne peut pas me montrer ses bénédictions, il ne peut pas me faire goûter ces choses. Mais si je vis avec le Seigneur, si je suis le Seigneur, je vais avoir une vie vraiment riche. Il est intéressant dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, c'est courtement après la situation où cet homme riche est venu au Seigneur. Et le Seigneur a dû montrer cet homme que par cette richesse extérieure, il ne peut pas acheter le royaume. Et le Seigneur l'a montré, il faut se séparer de toutes ces choses pour ainsi dire, pour gagner des choses célestes. Il est dit dans le verset, chapitre 10, verset... comment ? 20, et voilà, merci. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. » Alors, il faut donner cela pour vivre avec le Seigneur, pour avoir communion avec le Seigneur. Et Pierre, dans le verset 28, dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Est-ce que c'était juste? Peut-être on peut dire Pierre a certainement quitté quelque chose, mais est-ce qu'il a quitté tout? En effet, dans l'Évangile selon Luc, le Seigneur dit que les disciples ont quitté tout. Ça veut dire que c'était une juste remarque. Et le Seigneur revient sur cela et dit dans le verset 29, « En vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ pour l'amour de moi. » Et pour l'amour de l'Évangile qui ne reçoit, etc. Ça veut dire, si quelqu'un quitte quelque chose, ici sera frère ou sœur, c'est la famille, ou père, ou champ, possession, les choses de travail, pour l'amour de lui, pour l'amour de l'Évangile, il va recevoir. Quoi? Verset 30. En ce temps-ci, 100 fois, autant maison et frères et sœurs et mères. Vous voyez, si on a quitté une chose, verset 29, ou, on recevra pas seulement une chose, mais une riche bénédiction. Et. C'est le Seigneur. Si nous, dans notre vie, sommes dans un petit coin fidèle, il va nous bénir spirituellement, richement. C'est Dieu. Est-ce que c'est juste dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment cette connaissance et cette vraiment sentiment que je suis riche en Christ? Ou est-ce que ma vie, mon cœur, est dirigé que sur des choses terrestres? Mais avec Abraham, il y a deuxièmement, elle est en bénédiction pour toutes les nations. Celui qui vit avec le Seigneur est pas seulement en bénédiction pour lui, mais aussi pour d'autres. Est-ce que je suis vraiment pour le bien? Est-ce que je vis pour le bien de ma famille, par exemple, de mes collègues, de mes voisins, de mes frères et sœurs dans le rassemblement local? Est-ce qu'il y a quelque chose de moi qui est pour le bien des autres? Ou est-ce qu'ils doivent dire, si je suis ce frère, cette sœur, si je regarde lui, j'aimerais plutôt me séparer de lui parce que c'est une mauvaise influence sur ma vie. Le Seigneur était toujours pour le bien des autres. Et même Abraham était pour la bénédiction des autres. Après, dans le verset 4, Genèse 12, nous voyons que Lot s'en alla avec lui. Lot est vraiment une personne, oui, dommage. Une personne, si on regarde la vie de Lot, il a suivi une personne de foi. Mais si on suit seulement extérieurement, il y a un moment qui est dans le chapitre 13 ici, un chapitre plus tard, qui montre s'il n'y a pas de foi intérieurement dans une vie. Si je suis seulement le pas d'un autre parce que je pense qu'il est bien, je vais le suivre aussi dans ses chutes, dans ses erreurs, et je ne vais pas apprendre une vie personnelle avec le Seigneur. Il est très bien que vous, les jeunes, viennent aux réunions aujourd'hui et régulièrement. Mais pourquoi est-ce que vous venez? Est-ce que vous venez parce que vous savez que le Seigneur est là? Est-ce que vous venez parce que vous avez la conviction, comme enfant même, qu'il y a pour votre bénédiction d'être là où le Seigneur est là? Ou est-ce que vous venez seulement parce que vos parents sont là ou vos amis sont là? Il est mieux de venir que de ne pas venir. Mais ce n'est pas suffisant de venir parce que quelqu'un vient ici. Au début, certainement, mes petits-enfants sont venus avec moi parce que je les pris. Mais après un certain temps, quand tu peux lire la parole de Dieu, il est nécessaire d'avoir des convictions personnelles. Des convictions, pourquoi est-ce que tu viens ici pour les réunions? Pourquoi est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que c'est seulement parce que tes parents suivent le Seigneur? Au début, comme j'ai dit, c'est bien. Mais après un certain temps, tu peux être sûr qu'il sera des situations difficiles, des défis, où il faut une décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment suivre le Seigneur? Et Lot n'était pas un enfant. Lot était un adulte. Lot était croyant. Il est remarquable dans 2 Pierre 2, dans un verset, Dieu dit trois fois qu'il avait eu une âme juste. Pour nous dire, cet homme où on ne peut pas voir quelque chose de foi, était quand même croyant. Alors, ne suivons pas seulement parce que quelqu'un suit le Seigneur, mais il faut avoir plus tôt ou plus tard, et mieux plus tôt, d'avoir une conviction personnelle de vouloir suivre le Seigneur. Ici, nous voyons que Abraham, avec les autres, sont allés maintenant de Charan à Canaan. Verset 6, et passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Alors c'était encore un pays comme le monde aujourd'hui qui est dominé par des incrédules. Mais cela n'a pas fait un obstacle pour Abraham de verset 7. Bâtir un autel à l'Éternel. Certainement, il est dit, premièrement, l'Éternel apparut à Abraham. Ça veut dire une deuxième apparition de Dieu à Abraham. Et pour suivre le Seigneur, pour bâtir un autel, pour comprendre les pensées de Dieu, il est absolument nécessaire d'avoir une révélation de Dieu. Pour nous, certainement, la révélation, ce n'est pas une apparition extérieure, comme avec Abraham. Parce que Dieu s'est révélé complètement dans la parole. Nous avons la pleine révélation de Dieu dans la parole. On ne doit pas chercher quelque chose au-dehors de la parole. On ne doit pas chercher quelque chose dans le ciel ou dans des apparitions, n'importe quoi. Ce sont des désirs, c'est plutôt le désir de notre chair d'avoir quelque chose de spécial aujourd'hui pour nous. Non, la révélation de Dieu se trouve dans la parole. Mais sans que Dieu me fait les versets vivants, je ne peux rien comprendre. Il est très bien, et on ne peut que recommander à chacun de nous, particulièrement aux jeunes, de lire attentivement la parole. Mais par lire la parole, on ne comprend rien. C'est seulement par Dieu, par son esprit, qu'il nous ouvre, qu'il nous ouvre la parole. Et cela est nécessaire. Ça veut dire, personne ne nous peut dire, parce que j'ai travaillé autant dans la parole, je comprends autant. C'est que la grâce de Dieu, qu'il nous révèle la personne de Dieu, la personne de notre Seigneur, la personne du Père, par l'Esprit Saint. C'est lui qui le fasse, c'est pas nous. Et elle est apparue à Abraham, et le résultat d'Abraham était de bâtir un autel. C'était visible. On a pu voir que cet homme n'a pas bâti un autel pour les idoles, mais à un Dieu vivant. Les personnes, parce que certainement Abraham avait eu le contact avec son environnement. Ils ont compris, ce n'est pas aujourd'hui cette idole, demain un autre, mais c'était un simple autel pour le Dieu vivant. Est-ce que tu as aussi cet autel? L'autel parle de la relation avec Dieu, avec le Seigneur. Est-ce que ma relation avec le Seigneur, ma relation avec Dieu est vivante? Est-ce que je parle régulièrement dans la prière avec Dieu? Est-ce que j'ouvre mon oreille pour ce que Dieu me voulait dire par sa parole? Autel, ça parle de ces deux directions. C'est communion, en fait. Communion est toujours les deux directions. Premièrement, Dieu parle à mon cœur, à ma conscience. Et deuxièmement, je parle à Dieu, au Seigneur. Est-ce que tu connais cela jour après jour? Est-ce que c'est vraiment un exercice régulier, aussi pendant la journée? Certainement, il faut travailler. On n'a pas le temps de parler chaque moment avec le Seigneur. Mais est-ce que nous cherchons pendant la journée des moments de prier? Et qu'est-ce que tu fais avec la lecture de du matin? Il y avait un frère en Allemagne qui, dans notre région, il a prêché pour les jeunes. Il a dit, chaque matin, aujourd'hui peut-être on peut le faire certainement avec son mobile, mais il a un papier à côté de sa Bible. Il lit quelques versets et fait 3-4 remarques sur son papier. Il le prend dans sa poche pour avoir pendant la journée ses pensées du matin, pour que ça reste avec lui pendant la journée. Est-ce que nous avons cet autel chaque jour? Mais ce n'est pas tout. Il est dit dans le verset 8, « Et se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, étendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. » Sa tente. Si ma relation avec Dieu est intacte, eh bien, ma relation avec le monde, c'est la tente, sera intacte, sera bien aussi. Je crois, probablement, personne de nous habite dans une tente aujourd'hui. Chacun a un appartement ou une maison. Mais est-ce que du caractère, ma vie est une tente? Ça veut dire que je sais et je vis
que je suis ici sur la terre seulement pour un temps limité. C'est la tente. La tente veut dire, ce n'est pas la place où je vais toujours habiter. La tente parle que je suis seulement pour un certain temps ici. Et après, pour nous, nous sommes dans le ciel. Est-ce que ma famille voit dans ma vie que je appartiens au ciel et pas à la terre? Est-ce que mes voisins voient dans ma vie, peuvent sentir dans ma vie que je ne suis pas de la terre mais du ciel? Ou est-ce qu'ils disent, il vit comme nous, il a les mêmes intérêts que nous, il fait les mêmes choses que nous, sauf le dimanche, je le vois aller à l'église. Est-ce que c'est la seule différence? Est-ce qu'ils peuvent sentir, mon collègue, que je ne suis pas derrière une carrière extrême, que je ne veux pas gagner autant de l'argent que possible, d'avoir une réputation dans le monde que possible? Est-ce qu'ils sont dans ma vie que je ne suis pas de ce monde, mais du ciel? C'est très pratique. Est-ce que moi, j'ai de toute façon cette conviction que la terre n'est pas le lieu pour toujours, que ma vie appartient vraiment au ciel? Et si c'est le cas, je m'occupe du ciel. Il y a des choses où nous sommes responsables de faire sur la terre, certainement. Mais est-ce que mon cœur et mon but et mon caractère est vraiment céleste? Il est intéressant, il a mis sa tente à l'orient de Bethel et Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Ça veut dire qu'il a pu voir Bethel et Haï. Il est intéressant que les noms des villages, de ces lieux, Sichem et aussi Bethel et Haï, ils ont pris leur nom beaucoup plus tard. Mais Dieu le donne ici pour nous faire des leçons. Haï, c'était après cette chute, pour ainsi dire, la destruction par Israël des ruines. C'est l'image de ce monde. Le monde dans les yeux de Dieu est que une ruine. En effet, Jean 16, verset 8 à 11 montre que le monde est déjà sous le jugement de Dieu. Ce n'est pas encore réalisé, le jugement, mais c'est clair. Et ça va arriver très proche. Est-ce que pour moi, le monde est vraiment quelque chose de ruine? Ou est-ce que le monde pour moi est quelque chose désirable? C'est une question à mon cœur et à ton cœur. Pour Abraham, le monde était comme une ruine, des pierres sans maison, des pierres avec lesquelles on ne peut rien faire. Est-ce que mon cœur désire le monde ou est-ce que mon cœur désire le Seigneur? Pour Abraham, les choses étaient claires. Et l'autre côté, c'était Bethel. C'est à partir du chapitre 28 que ce lieu a pris ce nom, Bethel, maison de Dieu. Est-ce que ma vie, maison de Dieu, veut dire communion avec Dieu? Communion d'après les pensées de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'assemblée. Est-ce que ma vie est en relation, en communion avec la maison de Dieu, avec l'assemblée, et sur les traces de l'assemblée, comme Dieu les montre dans le Nouveau Testament? Est-ce que j'accepte les principes du rassemblement de Dieu, les principes de la maison de Dieu, que Dieu nous montre dans le Nouveau Testament, comme partie de ma vie? Est-ce que pour moi est important, pas seulement de voir le monde et de me séparer de ce monde, mais de suivre les traces de l'assemblée comme Dieu nous les montre dans le Nouveau Testament?
Chacun peut, peut tester, prouver cela d'après la parole et regarder vers soi-même. Ce n'est pas nécessaire pour moi de regarder vers l'autre personne. C'est important d'être moi-même dans cette lumière de Dieu pour vivre comme cela. Un court mot encore sur la chute d'Abraham. Abraham partit marchant et allant vers le midi. Parce qu'il y avait une famine, il entre même en Égypte. Égypte est un symbole de ce monde sous le pouvoir règne de Satan. Quel était le but d'Abraham? Certainement, il y avait une famine. Et je crois, c'est exactement la situation de nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a une famine dans le peuple de Dieu. Où est encore la nourriture qui est donnée, la nourriture que nous voyons, que nous goûtons dans nos marches personnelles et collectives? Et on peut suivre le pas d'Abraham. Mais tu ne peux pas être sûr, si tu suis son pas, que tu vas revenir comme Abraham. Lui est revenu. Et il y a toujours la possibilité de revenir, toujours. Mais si je me retrouve dans le monde, comme Abraham en Égypte, il n'y a pas une sécurité, une promesse que je vais revenir. Alors, il faut voir ce danger. Oui, il y a une faiblesse. Il y a cette famine dans les rassemblements, dans beaucoup de rassemblements. Mais est-ce que cela est une raison de sortir ces chemins pour chercher quelque chose d'autre? Abraham a dû réaliser, apprendre par des dures leçons ce qu'il a fait. Quelques leçons en Égypte, beaucoup de leçons, beaucoup plus après. Parce que si j'entre moralement, si j'entre personnellement, pratiquement dans le monde, il y a des conséquences qui sont vues seulement beaucoup plus tard. Il est même intéressant que sur Agar, Dieu ne parle pas dans le chapitre 13, seulement dans le chapitre 16. Certainement, Agar est revenu avec Abraham déjà dans le chapitre 13. Mais Dieu montre ce résultat et seulement beaucoup plus tard. Premier danger de voir la famine, c'est déjà bien de voir, de sentir la famine. Mais il faut avoir les justes conséquences de cela. Comme Gédéon a pu dire aussi, je peux quitter le pays pour chercher quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour que la famine finisse et finit pour le peuple. Je peux voir, je peux critiquer et à la place d'être un aide pour le peuple de Dieu, je quitte. On ne peut pas quitter le peuple de Dieu, certainement, parce qu'on reste enfant de Dieu toujours. Mais cette communion pratique, je peux quitter, en fait. Abraham l'a fait. Et on voit qu'un péché est suivi par un autre. Comment est-ce qu'Abraham a pu dire « Sara n'est pas ma femme, elle est ma sœur ». Je crois, il faut dire, dans la dimension de ce péché, c'est un péché qui est tout à fait dans ces mentionnements de 1 Corinthiens 5. De nier ma relation avec ma femme, de la laisser pour une autre personne, ici pour le Pharaon, c'est vraiment un grave péché. Nous voyons le Dieu de miséricorde. Il a pu dire, je t'ai amené jusqu'à Canaan,
maintenant tu as quitté ce pays, fais ce que tu veux. Mais Dieu ne réagit jamais comme cela. Il est toujours celui qui essaye de trouver nos cœurs, nos consciences pour nous faire repentir et revenir. C'est la grâce de Dieu. Mais quelle douleur pour Abraham, pour Sarah. Et il faut dire, n'est-ce pas, il est vraiment remarquable si on lit chapitre 20, où il tombe une deuxième fois dans le même péché qu'il a dit, c'était même une stratégie. Ils ont parlé les deux ensemble quand ils ont quitté la Mésopotamie pour dire si cette situation va arriver, on fait comme cela. Est-ce que nous avons vraiment, si on regarde cela, est-ce que nous avons vraiment vu les choses dans nos vies que nous avons fait, peut-être comme couple, peut-être dans le temps de notre fiançailles, peut-être dans nos vies comme famille, où nous avons péché contre le Seigneur? Est-ce que nous avons vu cela et confessé cela? Abraham l'a fait, on le voit dans le chapitre 13, mais ici on voit les conséquences. C'est triste. Les conséquences des péchés sont toujours tristes, et si on ne confesse pas les péchés, on va continuer dans ce chemin. Et c'est toujours pour le mauvais, vraiment pour le déshonneur de notre Seigneur de Dieu. Suivons plutôt les pas que Abraham a pris dans la première partie de ce chapitre. Laissons être caractérisés par cet autel, premièrement la direction de Dieu, et deuxièmement par l'attente. On vit le monde, et on peut dire aussi, en relation avec les frères et sœurs de nos rassemblements. Il y a, avec un chemin avec le Seigneur, une grande bénédiction pour moi, pour les autres, pour nous tous. C'est exactement ce que Dieu veut pour ma vie, pour notre vie.
71.
Yeah.